Michel, après cette première pause, nous allons parler du DOB, DOB, débat d'orientation budgétaire de la ville de Narbonne, tel qu'il s'est déroulé au dernier conseil municipal.
Oui, et
c'est-à-dire en fait la préparation du budget de l'année qui
voilà.
commence.
Oui, c'est un document d'orientation budgétaire qui est obligatoire et qui est voté par le conseil municipal juste avant la présentation du budget primitif,
c'est-à-dire
voilà,
du
c'est document
un débat
technique.
Comme la loi l'impose.
Voilà, exactement. Donc des orientations, on discute d'abord des orientations et ensuite on vote sur le budget qui lui est élaboré de manière très précise. Et donc, conformément au droit, quoi, hein, le conseil municipal de Narbonne s'est réuni et pour cette occasion. Et là, d'entrée de jeu, si je puis dire, un coup de vent, enfin, pour ne pas dire une tempête hein, politique s'est levée, qu'elle a duré pratiquement demi-heure, même plus. Hein,
sujet qui n'était pas un sujet.
Qui n'était pas d'ailleurs inscrit fait, au débat de l'orientation budgétaire. Il n'y avait aucune ligne ni aucune orientation à ce sujet-là. Mais en tout cas, bon, sous les plafonds vénérables et archiépiscopaux
de la salle
des synodes, un immense coup de vent en fait, a eu lieu. En cause, je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent de ce que la presse en a rapporté, en cause, ben, l'emblématique aspirateur de notre bonne ville de Narbonne,
ouais,
hein,
qui va devenir
brandi par l'opposition.
Siège de la police municipale.
Qui, au lieu de la culture, prétend. C'est l'opposition qui parle, c'est pas moi.
Rappelons sa brève histoire. Il est passé de l'environnement à la culture contemporaine.
Je vais y venir. Et alors, au motif que ben, Didier Mouly et son équipe avaient décidé de déménager la police municipale hein, pour la placer dans l'aspirateur. Ce qui, entre parenthèses, symboliquement, en tout cas, et sémantiquement en particulier, voilà, ressemble à une image un peu, disons, bizarre. Quoi,
oui, hein. c'est
mettre,
bizarre.
Et puis... mettre la police municipale dans un aspirateur qui était dédié initialement au recyclage des ordures ménagères, oui. Franchement,
symboliquement, ça interroge.
Ça interroge. En tout cas, ça amuse. Bon, ça me
cela
permet
dit,
de. Ça me permet.
Techniquement aussi, le local n'est pas prévu pour accueillir une administration.
Ça me permet de faire ce petit trait d'humour, d'autant que, en plus, s'il fallait en rajouter dans l'ironie de la chose, cette police municipale placée dans cet aspirateur rénové, pour ne pas dire recyclé par certainement un opérateur spécialisé dans ce genre de choses, parce qu'effectivement, comme tu viens de faire remarquer. Créer des bureaux fonctionnels dans ce bâtiment que je connais un peu.
C'est du boulot.
Mais en plus, donc, pour revenir à l'ironie de cette situation, c'est que ces nouveaux bureaux de la police municipale dans cet aspirateur seront situés entre, d'une part, l'ex-Murena, le bus de la Romanité, et le théâtre scène nationale, ce qui, comment dirais-je, donne un surcroît de valeur ajoutée à cet espace de la commune dédié à la culture. Passons, fermons la parenthèse, donc. Peut-être qu'après tout, bon, ça permettra de régler quelques conflits territoriaux, en fait, entre ces deux éminents lieux culturels.
Ce qui est drôle, c'est que ça apparaisse au conseil municipal alors que ça n'est pas dans le sujet. Mais comme tu faisais remarquer tout à l'heure avant la pause, Michel, il y a des élections qui se profilent.
Voilà, et j'avoue d'ailleurs, bon alors, j'ai entendu des propos, enfin je n'ai pas entendu, j'ai lu des propos rapportés par la presse, totalement dantesques quand même, hein, de la part de l'opposition, c'était la mort de la culture, programmée par Didier Mouly.
Oui, mais là on n'a pas peur des mots, hein.
Ah ben non, mais là,
fait dans l'emphase.
Surtout quand on entre sur ce terrain-là de la culture, hein, et Dieu sait si l'art contemporain de Narbonne, et précisément dans ce lieu, était particulièrement apprécié de Narbonne.
Dieu sait si la foule s'y bousculait d'ailleurs dans ce
oui,
lieu.
Oui, moi je n'y ai vu fait de foule que les jours des vernissages. Et encore.
Foule avec un petit F.
Avec un petit F, bon, j'y reconnaissais beaucoup de militants de Nouveau Narbonne, notamment, qui trouvaient là l'occasion de se précipiter sur les petits fours mis à leur disposition, plutôt que regarder des installations ou des toiles dont le caractère, comment dirais-je, figuratif, ou en tout cas, bon, expressif, laissait beaucoup à désirer pour des personnes qui, à l'évidence, n'étaient pas forcément formées à la, à la juste appréciation enfin, de l'art contemporain. Petits... Je dois dire que moi-même, quelquefois, je reste très dubitatif devant ce genre d'œuvre.
Ah, en fait. Tu n'es pas le seul, confidence pour confidence. Voilà.
Ben, écoute, je suis heureux de constater que je ne suis pas le seul, mais bon, peut-être que...
Après, chacun est libre d'apprécier ou pas.
Exactement, exactement. Donc, ça a commencé par ça. Hein, et après, on est entré dans le vif du sujet, si je puis dire. Mais, sauf que, dans le vif du sujet, il y a un aspect du futur budget qui n'a pas été évoqué, ni par le maire d'ailleurs, ni par l'opposition, et que je voudrais mettre en évidence ici, aujourd'hui.
Quel est-il ?
Nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais la compétence risque inondation, qui était gérée auparavant par un syndicat, par des syndicats de rivières, et le syndicat de la basse vallée de l'Aude, enfin, pour aller vite, hein, pour la ville de Narbonne en tout cas,
obligé les villes
donc à financer ces syndicats et donc à prélever de l'impôt pour le financer. Donc cette compétence-là a été transférée à l'agglo.
Sous le sigle barbaresque de GEMAPI.
Hein, qui fait penser d'ailleurs à un oiseau exotique mais bon, pas forcément à une compétence.
Ça fait presque tweet.
Exactement, hein, transféré. Et les conseillers communautaires, plutôt que de décider de ne pas créer une taxe, mais plutôt de prendre sur les attributions de compensation des communes, c'est-à-dire les subventions que reversent aux communes la communauté d'agglomération, ont décidé de créer une taxe. Ce qui veut dire clairement, mais qui n'a pas été expliqué ni exprimé, on va comprendre pourquoi, clairement par notre maire, mais comme il n'est pas le seul, hein, je vais y venir, que les 400 000 euros, en fait, j'arrondis, hein, que le maire de Narbonne dépensait chaque année
pour le syndicat de rivière,
avec une recette pour compenser ces 400 000, et poum, ça part à l'agglo. Donc, conséquemment, 400 000 euros en moins à dépenser, ce qui, automatiquement, et à budget égal, devrait avoir comme conséquence une diminution équivalente de l'impôt.
Or,
il n'en est rien.
Bon.
Ce qui veut dire, très pratiquement, qu'on refile effectivement la dépense à l'agglo qui va prélever un impôt sur nos contribuables pour la compétence en question. Et que la ville de Narbonne va conserver le même montant d'impôt qui lui permettra de financer autre chose.
Ça, c'est une tactique que d'habitude l'État utilise fort bien pour se décharger sur d'autres collectivités.
Alors pourquoi effectivement ni l'opposition et ni la majorité n'ont évoqué ce point d'après tout le monde, en fait.
Là, ça aurait été plus pertinent, me semble-t-il.
Oui, mais est-ce que l'opposition avait vraiment intérêt à soulever ce problème, d'autant que le maire voisin de Courson, par exemple. Il a fait exactement la même chose.
Oui, voilà. Hein, voilà.
Bon, et que madame la mairesse de Roquefort-les-Corbières, qui avait adressé une lettre au président de l'agglo, en lui disant, voilà monsieur, nous ne souhaitons pas que cette dépense de l'agglo soit financée par le prélèvement que vous pourriez faire sur les subventions que chaque année vous nous redistribuez. Hein. Et en contrepartie, nous nous engageons, moi, en fait, le groupe dont je suis la porte-parole, c'est-à-dire le groupe de Didier Mouly, a diminué l'impôt de la somme correspondante.
Voilà. Et qu'en est-il au bout du compte ?
Eh bien, rien.
Bon. Un des seuls qui l'a fait, c'est le maire de Port-la-Nouvelle, Henri Martin, me semble-t-il.
À voir.
Enfin, il l'avait prévu, Alors,
peut-être que ce que je dis là, en fait, est tout à fait, comment dirais-je, déplacé, car le budget primitif de Narbonne en tout cas n'a pas encore été voté. Hein. Mais voilà, bon, je pose la question et je me demande si effectivement il sera fait tout à fait logiquement cette équivalence et donc cette diminution. Alors, pourquoi ça ne sera pas fait, en fait, Jean-Claude Poinevent, simple.
Tu apportes la réponse, là.
Simple. Non, mais je vais continuer. La ville de Narbonne est dans l'obligation, comme 325 collectivités territoriales, de ne pas augmenter ses dépenses de fonctionnement de plus de 1,2% par an.
Voilà.
Donc... Elle a une masse salariale, la ville de Narbonne, qui représente 55% de son budget de fonctionnement et qui augmente, elle, naturellement, de 3,5%.
Oui, voilà. Donc...
Je fais le pari que les 400 000 euros économisés...
Voilà. Ils vont être reconvertis quelque part. Allez.
Là.
Voilà.
Et que, effectivement, Narbonne restera dans les clous des 1,2% d'augmentation de ses dépenses de fonctionnement.
Et un dernier mot sur à propos de la ville, sur l'église de la Major qu'on a évoquée en tout début d'émission, qui devait à un moment être reprise par la ville, puis restaurée, aménagée, etc., est finalement en vente sur Internet.
Oui, ça avait fait sursauter pas mal de personnes que ce mode de liquidation d'actifs, à savoir la mise en enchère. C'est assez courant. Et puis, très honnêtement, sur la liquidation d'actifs, la vente d'actifs d'une collectivité publique, que ce soit l'État, que ce soit un département,
tout le monde le fait.
Et il n'y a rien de scandaleux dans cela. Bon, quand un actif est inutilisable, inutilisé, ou sans correspondant plus du tout, en fait, à la gestion de tel ou tel espace urbain ou autre, on le vend tout simplement et on en tire effectivement des ressources pour améliorer son épargne, ce qui est de bonne gestion. Mais là, en l'espèce, sur la major, c'est ce qui a arrêté effectivement. Donc, conclusion, c'est pas la liquidation d'actifs ou la cession qui pose problème, c'est quel type d'actifs on vend et pour quelles raisons. Et là, à l'espèce, il y a un projet qui m'a posé problème. C'est la major qui, effectivement, en 2014, avait fait l'objet d'un rapport présenté par Madame Granier, qui avait en charge de l'urbanisme à l'époque. Un rapport donc qui, au nom de la majorité de Dimouli, expliquait que il fallait faire là une opération patrimoniale faite d'envergure qui permettrait de sauver ce qui reste de l'église de la major, situé près de l'espace monumental. Les Narbonnais savent très bien où se trouve cette église,
j'espère en tout cas.
Et que à traiter cette partie-là du patrimoine qui avait été racheté quasiment en totalité par la ville de Narbonne à l'époque, on pourrait à la fois ouvrir l'espace, présenter des restes de l'église au public, y installer un service public, pourquoi pas le service du patrimoine de la culture, c'est moi qui le dis, au hasard, et puis dédier le reste à du locatif.
Apparemment, le projet tombe à l'eau.
Il tombe à l'eau et ce qui d'ailleurs me surprend, pourquoi ce revirement en cours de mandat est si près de la fin du mandat en question, et deux, surtout, à un moment où tout le monde s'efforce de mettre en évidence que les centres-villes de nos villes, pratiquement toute la France, se délitent, s'appauvrissent, etc. Qu'il y avait là, dans ce projet de Nathalie Granier, justement, l'association à la fois d'une sauvegarde patrimoniale, donc une valeur ajoutée touristique, du locatif, et trois, effectivement, du service public. C'était, pour moi, un exemple typique, tout à fait remarquable, de ce qu'il faut justement faire.
Ça tombe à l'eau et c'est malheureux. Peut-être qu'on y reviendra. En attendant, on marque une seconde pause après laquelle nous retrouvons notre invité, Laure Dandoc.